Bonjour.
Le journalisme gastronomique, ça a toujours existé ou c'est quelque chose finalement de relativement récent?
C'est quelque chose de plutôt récent si on prend une perspective d'histoire longue, puisqu'en fait le journalisme gastronomique est essentiellement né avec la naissance des restaurants. Et les restaurants tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui n'a pas toujours existé. Et on date à peu près l'invention du restaurant au milieu du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. Et le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la possibilité de choisir ses plats, de manger sur une table qui est privatisée, qui est uniquement pour les personnes avec lesquelles on a choisi de déjeuner ou de dîner. Et tout ça, c'est né donc à fin XVIIIe. Et à partir de ce moment-là, on a pu changer le regard qu'on portait sur l'alimentation et adopter une perspective un peu plus esthétique et considérer que l'alimentation, ce n'était pas seulement un problème médical ou religieux, mais que ça pouvait aussi être un problème esthétique de choisir les bons produits. Alors, il y avait toute une tradition aussi de la bonne cuisine auparavant, mais l'écriture sur cette nourriture en tant qu'objet esthétique date à peu près de cette période. L'idée qu'on va commencer à critiquer les restaurants, à avoir une perspective qui ne soit pas juste nutritionnelle ou religieuse sur la question. Et qui ne soit pas uniquement une parole qui émane des chefs, comme c'était le cas auparavant, mais qui émane d'amateurs ou de personnes passionnées qui vont commencer à produire un discours sur la table et sur le bien manger. Donc essentiellement après la Révolution française, c'est à ce moment-là que se développe à Paris notamment la restauration indépendante telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Et quand on parle de journalisme gastronomique, on va parler d'articles de presse, de guides, des deux. C'est là que vous êtes allé chercher la matière pour votre livre?
Alors, deux choses. C'est un petit peu différent. En fait, c'est pas exactement les mêmes personnes selon qu'on regarde les journalistes qui écrivent dans les médias classiques, la presse, la télévision, la radio, et les journalistes qui travaillent pour les personnes qui travaillent pour des guides. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les personnes qui gagnent leur vie en écrivant sur l'alimentation dans les médias. C'était mon critère de choix de ces personnes-là, qu'ils aient une carte de journaliste ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas gagnaient leur vie en écrivant ou en parlant de la nourriture dans les médias. Et en fait, les gens qui écrivent dans les guides, la plupart du temps, alors il y a une partie de journalistes qui écrit dans les guides, mais dans la plupart des guides de restaurants, ce sont en fait des personnes qui font ça en plus d'un travail qui n'a rien à voir avec la nourriture, qui peuvent être ingénieurs, médecins, postiers ou autres, et qui vont critiquer des restaurants pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est pas une activité qui est rémunératrice. Quand on écrit pour un guide, au mieux, on est défrayé du repas qu'on a pris et de son transport, mais on va pas être payé pour écrire comme quand on écrit un article ou quand on écrit une chronique pour la radio. Donc en fait, c'est pas une activité de laquelle on peut vivre, avec une exception notable qui est le guide Michelin en France, qui est le seul guide qui emploie des gens à plein temps, des personnes dont c'est l'activité principale et unique, et qui en plus ont un profil un peu particulier, parce que souvent ce ne sont pas des journalistes, ce sont des personnes qui doivent avoir une expérience dans l'hôtellerie-restauration, qui doivent eux-mêmes avoir travaillé auparavant dans l'hôtellerie-restauration, ce qui est là aussi un peu différent des journalistes, parce que la plupart des journalistes, presque la totalité des journalistes que j'ai rencontrés, n'ont pas ce bagage professionnel. Ils ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Presque aucun n'a tenu de restaurant ou n'a eu de formation, un CAP de cuisine ou une formation en cuisine.
Pourtant, ces journalistes...
Donc, ce sont des profils un peu dessus.
Ces journalistes, parfois, se sont forgés des personnalités autour de leur spécialité. On pense aux éclats d'un Jean-Pierre Coff, des critiques d'un Perico Legas. Il y avait les escapades gourmandes de Petit Renaud. C'est aussi une matière qui vous intéresse, ce rapport que le journaliste peut avoir entre la cuisine et le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur.
Oui, alors ça m'a intéressé d'arriver à comprendre les trajectoires de ces gens-là, de comprendre pourquoi justement certains réussissent à se démarquer, à se construire une personnalité qui va être connue ensuite du public et aussi de leurs confrères, et pourquoi d'autres vont rester plus dans l'anonymat. Donc j'ai essayé de travailler en regardant les différents facteurs qui pouvaient rendre compte de la construction de la notoriété aussi dans ce champ d'activité. Alors c'est lié en partie à des parcours personnels, puis aussi à des contextes. En fait, on devient connu comme journaliste selon des modalités un peu différentes dans le temps, c'est-à-dire dans les années 60, c'était pas exactement les mêmes principes qui rendaient un journaliste connu que ceux qui sont aujourd'hui. Donc il y a différents facteurs qui peuvent expliquer que certains sont sortis du lot. Et donc leur rapport au lecteur va être en partie aussi dépendant de leur trajectoire et de leur formation. Les gens qui ont une formation très journalistique, qui ont fait des études de journaliste, ont une approche plus plus formelle du métier, au sens où ils vont essayer de respecter des principes de déontologie journalistique et d'écriture journalistique, d'enquête, alors que d'autres qui ont moins cette formation journalistique vont avoir une approche plus subjective, en disant que c'est plutôt leur façon de goûter, leur façon d'apprécier, qui va créer un lien, une proximité avec le lecteur. Ils ne veulent pas être ni des techniciens de la nourriture, ni des professionnels de l'enquête. Donc il y a différents positionnements aussi selon la trajectoire des individus.
Sidonie Nolin, on a brièvement évoqué l'histoire du journalisme gastronomique, les différents profils des journalistes qui se consacrent à la gastronomie, à ce plaisir-là. Aujourd'hui, avec le web, tout a changé. On est tous de potentiels journalistes gastronomiques. Il y a les blogueurs culinaires, etc. C'est vraiment une révolution.
Alors, oui et non, en fait, en partie, mais alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées avec Internet. Il y a d'une part le transfert de la critique, qui était une critique sur d'autres supports, sur des supports papier notamment, qui est passée maintenant en ligne et qui est donc beaucoup plus accessible à une plus grande masse de gens. Ça reste de la critique, entre guillemets, professionnelle. Et puis, il y a surtout l'émergence de toute une critique et un journalisme amateur, en fait, avec des personnes qui peuvent effectivement, soit sur le blog ou autre, devenir eux-mêmes leurs propres éditeurs de critiques, en fait, produire leurs propres critiques à destination du public, ou plus basiquement, et c'est sans doute aussi plus répandu, le fait que les gens, vous et moi, pouvons aller sur des sites pour noter des restaurants. Il en existe toute une palette de sites différents sur lesquels on peut mettre des étoiles ou des notes et noter des avis aussi sur ces restaurants. Donc effectivement, il y a une forme de démocratisation de la critique de restaurants notamment, et aussi de la production des recettes de cuisine hein, dans le domaine culinaire. De la production de la cuisine. Démocratisation à la fois au sens où il y a plus de gens qui peuvent participer à la production de critiques, et puis aussi démocratisation aussi où il y a plus de restaurants qui vont être critiqués. Donc il y a un changement assez massif effectivement, mais qui, si on regarde de plus près, j'ai des collègues qui ont travaillé sur cette question, montre qu'en réalité on retrouve au bout d'un moment des mécanismes assez classiques où finalement la visibilité ne va concerner, même sur ces sites de classement de restaurants, qu'un petit nombre d'établissements. Et de fait, va réémerger une forme de sélection des restaurants qui fait que tout le monde ne va pas avoir la même visibilité sur Internet, quand bien même tous les restaurants peuvent être critiqués. Alors ça va changer aussi un peu la vie des restaurateurs, parce que désormais, ils n'ont plus seulement les critiques qui viennent chez eux individuellement, mais n'importe quel client potentiel peut être un évaluateur de la qualité. Donc le secteur de la communication dans les restaurants, les relations qui s'est développé à partir des années 90, où les restaurateurs ont commencé à avoir des attachés de presse ou des personnes chargées de faire la communication du restaurant auprès des journalistes, va aussi évoluer vers une communication qui sera davantage digitale, avec création de sites internet de restaurants et promotion de restaurants sur les réseaux sociaux et autres pour acquérir de la visibilité. Mais sachant aussi que ça touche pas forcément l'ensemble du secteur de la restauration, si on prend que celui-ci, parce que il y a certains restaurants qui n'ont pas forcément besoin de ça. Quand les restaurants qui sont dans les zones très touristiques n'ont pas forcément besoin de communiquer beaucoup, ils seront remplis quoi qu'il arrive. Et les restaurants très haut de gamme, de la même façon, sont un peu moins dépendants de ce bouche-à-oreille, même si de plus en plus ils développent aussi leur communication digitale. Donc ça va concerner essentiellement les nouveaux restaurants, les ouvertures de restaurants, et les restaurants à prétention gastronomique, de la même façon, toute la restauration un peu moins gastronomique va être moins sensible à ces effets de changement de la critique.
On voit aussi des chefs qui deviennent un petit peu des stars du petit écran, qui s'invitent dans des émissions de télévision, qui sont des tables rondes où l'on invite plusieurs acteurs de la vie sociale ou politique. Et puis il y a un chef qui vient présenter une assiette. C'est aussi une nouvelle manière de communiquer la gastronomie à travers le petit écran.
Oui, la gastronomie est devenue beaucoup, beaucoup plus visible. La cuisine et la gastronomie sont devenues beaucoup plus visibles. Dans les médias, c'est assez récent, c'est depuis les années 2000, avec l'apparition d'émissions, notamment de télé-réalité autour de la cuisine. Et puis avec aussi ce qu'on appelait l'artification du culinaire, le fait qu'on se rapproche des mondes de l'art et qu'on considère la cuisine comme un art. Et donc avec une mise en visibilité des cuisiniers comme des artistes ou des chefs d'entreprise dans les médias. Et ça va aussi de pair avec un développement de tout l'événementiel autour de la cuisine et de la gastronomie, qui est une forme de communication aussi. Il y a de plus en plus d'événements, soit locaux, soit d'ampleur nationale ou internationale, des fêtes de la gastronomie, des foires de la gastronomie à différentes échelles, pour le grand public ou uniquement pour les professionnels, mais qui vont être aussi des lieux où les cuisiniers vont être obligés de sortir de leur cuisine pour venir se montrer ce qu'ils font pour effectivement communiquer avec cette idée que désormais pour remplir son restaurant, il faut aussi être beaucoup plus visible que par le passé quand on a des prétentions gastronomiques. Et ça va ensuite de pair aussi avec l'idée que les cuisiniers ont aussi peut-être un propos à tenir sur la société, ce que vous disiez, le fait qu'on va les inviter aussi comme d'autres dans des tables rondes pour discuter de problèmes plus généraux qui ne touchent pas forcément uniquement à leur secteur.
Sidonie Nolin, on vous remercie beaucoup d'avoir participé ce matin à Format 3, d'être venue à notre table. On vous retrouve au Club 44 ce soir à 20h15 pour cette conférence. On vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.